sur deux ou trois remarques très simples. Je serais bien en peine de vous définir ce que c'est qu'Internet. Alors, c'est mon métier en tant que professionnel depuis plus de 10 ans et dans le monde associatif depuis plus de 15 ans. Internet n'est pas un média, parce que ça ne sert pas que à accéder à un contenu mis en ligne par un diffuseur. C'est beaucoup plus tordu que ça. Internet, c'est pas un média au sens télé, radio, journal. C'est pas non plus un commerce, parce qu'on peut pas réduire Internet au fait d'aller faire ses courses en ligne. C'est la somme de tout ça, plus tout un tas d'autres choses que j'oublie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Dans le monde numérique et dans la culture du savoir qui nous attend, Internet est quasiment le substrat essentiel. C'est-à-dire que la société du savoir n'existe pas sans Internet. C'est le lieu qui permet aux concitoyens de s'adresser à ses élus. C'est le lieu, enfin c'est vraiment quelque chose de très très central. Et donc la façon dont on fait se développer le très haut débit dans cette société du numérique, c'est pas une question neutre parce que on s'adresse à un outil extrêmement particulier. C'est-à-dire que ça relève à la fois de la liberté du. Et donc la façon dont on fait se développer le très haut débit dans cette société du numérique, c'est pas une question neutre parce que on s'adresse à un outil extrêmement particulier. C'est-à-dire que ça relève à la fois de la liberté du commerce et de la liberté de la presse, si j'ai envie de faire simple. La loi qui régit Internet a le même pouvoir de bienfaisance ou de nuisance que celle qui régit la liberté de commerce, la liberté d'association, la liberté de parole, la liberté de la presse. On touche à quelque chose d'extrêmement central. Et donc, dans ce sens-là, ce que j'attends, moi, de savoir pour les municipales 2008, il se trouve que la mairie de Paris a une position très forte en tant que la plus grande ville de France, qui lui donne un budget que toutes les autres villes n'ont pas, en tant que département, puisqu'on a la chance de cumuler la ville et le département, ce qui nous offre là aussi des possibilités que n'ont pas beaucoup d'autres communes, et en tant que la ville qui sera très probablement la première en France couverte en fibre optique. J'entends en grande ampleur, parce qu'il y a quelques expériences de fibre à Pau ou à Gonfreville ou dans un certain nombre de villes. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous abordez ça politiquement. C'est-à-dire, pour vous, qu'est-ce que doit permettre ou ne pas permettre la fibre optique à Paris? Est-ce que c'est simplement un enjeu commercial pour quatre opérateurs dominants ou est-ce que c'est un peu plus fin que ça?
L'idée pour nous, c'est qu'évidemment, ça permette de contribuer à réduire ce qu'on a appelé la fracture numérique. Hein, c'est-à-dire de permettre que, au travers de ces dispositifs, on réussisse à faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès. Hein, parce que vous avez résumé l'ampleur des enjeux qui sont derrière. Et donc, que ce soit l'ensemble des quartiers qui soient accessibles, que ce soit l'ensemble des familles qui puissent avoir accès, et pas simplement ceux qui peuvent apparaître comme étant des bons clients potentiels pour ceux qui mettent en place le réseau. Notre rôle en tant qu'élu, ça peut être soit de décider le lieu de l'implantation des antennes directement et de dire voilà, ça va être on décide de mettre en place un plan, soit c'est plutôt ce qu'on a choisi de faire à Paris, soit de mettre en place une charte qui essaye d'encadrer. Alors, la charte, elle est plus ou moins contraignante. Sur les antennes relais, nous pensons qu'il faut aller plus loin. Bon. Mais en la matière, sur la fibre optique, il y a tout inventé, quelque part, sur quel pourrait être le contenu de cette charte. Mais je pense que c'est vraiment vers ce type d'outils qu'il faut aller pour faire en sorte que, vraiment, on n'ait pas de monopole qui s'installe de cette façon-là et surtout de déséquilibre qui serait particulièrement défavorable.
Les questions sur Paris sont moins graves qu'ailleurs. Je vous cache pas que dans certaines petites villes de Lozère, la question de savoir comment on va mettre la fibre optique pour tout le monde, elle est encore très lointaine. Mais dans Paris, la question se pose pour tout un tas d'endroits qui sont typiquement soit les populations défavorisées, il y en a quand même à Paris.
Ça, je confirme, oui. Il y a 250 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc
là, pour eux, la question se pose de savoir comment ils ont accès pour rentrer dans le monde du numérique. C'est pas tout à fait neutre. On avait le choix entre 40-50 opérateurs en France. Aujourd'hui, ce choix est extraordinairement réduit. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu de recréer une dynamique économique locale sur Paris autour de ça? Ou est-ce que vous souhaitez simplement avoir le développement le plus rapide possible de la fibre optique, quitte à la laisser aux 3 ou 4 grands groupes quasi-monopolistiques, oligopolistiques, comme on dit, je crois, qui traitent le sujet en ce moment.
Point de vue de l'expert que vous êtes, comment la municipalité peut-elle agir ? C'est-à-dire, aidez-nous à comprendre où sont les dispositifs qui nous permettent justement de prévenir quelque chose qui aujourd'hui apparaît comme un dispositif qui est finalement tellement souterrain justement qu'il se met en place sans que on y voit réellement où sont les leviers sur lesquels on peut agir. C'est ça la question qui se pose. C'est qu'une fois qu'on émet un avis sur la façon dont on voudrait que ça se passe, c'est où sont les vrais leviers qui peuvent nous permettre d'agir.
Je crois qu'on peut reprendre comme un peu comme parallèle ce qui s'est passé avec les radios libres. C'est-à-dire, au départ, il y avait beaucoup de radios associatives, et puis finalement, au moment du partage des fréquences, et de plus en plus d'ailleurs, au fur et à mesure des années, maintenant c'est encore plus dramatique, on le voit aussi sur les télés, sur les dernières répartitions de fréquences, si on laisse trop d'espace ou tout l'espace aux grands groupes privés, on se rend compte qu'à la fin, il ne reste que les grands groupes privés. Parce que même si au départ, on peut faire croire qu'il y a concurrence, mettons qu'il y ait 5-6 groupes privés, on sait que par les fusions, par les rachats, ça se termine souvent avec très très peu de groupes, et donc plus aucun espace possible pour tous ceux qui ont une autre conception, à un moment donné, de l'échange d'informations, de savoir, de culture, toute la conception de partage. Donc c'est vrai qu'il faut trouver des solutions pour éviter que soit seulement des grands groupes privés s'accaparent le réseau de fibre optique, parce que ça voudrait dire qu'à terme, finalement, il n'y aura aucun espace possible coopératif sur ce réseau. Donc,